y a eu des avancées parce que l'industrie minière en RDC a démontré une résilience et un courage qui a étonné plus d'un. Dans un contexte de déficit d'infrastructures et d'énergie qui existait déjà, c'est ajouté les restrictions dues à la pandémie à Covid, comme vous le savez, où il y a eu des perturbations du point de vue de la logistique d'approvisionnement des opérations minières, ainsi que la logistique d'évacuation aussi des produits marchands à travers le monde. En dépit de tout cela, la RDC a encore une fois battu tous les records réalisés à ce jour, en réalisant une production l'an dernier de plus de 1,8 million de tonnes de cuivre, plus de 100 000 tonnes de cobalt et plus de 30 tonnes d'or. Et cela ne fait que continuer à augmenter. Nous prévoyons encore une année très forte cette année. Et c'est ce qui fait que la RDC attire autant de monde. Mais c'est également le fait que dans cette approche de décarboner l'économie du monde, les métaux verts qui sont nécessaires pour ces nouvelles technologies, et donc le cuivre, le cobalt, le lithium, le coltan, le nickel, le manganèse et autres, sont en quantité et en qualité abondantes en RDC. Et donc c'est pour tout cela que la RDC attire tout ce monde qui veut faire partie de ces opportunités qui sont là et qui peuvent permettre finalement à l'économie mondiale d'être décarbonée.
Est-ce que dans ce genre de réunion, vous abordez par exemple la question de l'impact des mines sur la population, la vie de la population ?
Absolument, c'est une question essentielle. Et lors de mon adresse d'introduction hier, j'ai dit à tous les participants finalement, faire du mining, ce n'est pas pour gagner de l'argent. L'argent n'est qu'un moyen pour atteindre le but ultime. Parce que le but ultime, c'est finalement créer des richesses qu'il faut partager de manière équitable entre toutes les parties prenantes et assurer une justice sociale et un monde meilleur. Et cette compréhension-là est de plus en plus partagée par les miniers et de toutes les manières est encouragée aussi par le cadre réglementaire de notre pays. Comme vous le savez, il y a maintenant des paiements infranationaux qui viennent du secteur minier, notamment 0,3% du chiffre d'affaires de toutes les sociétés qui doivent aller aux communautés locales, la redevance minière qui doit aller aux communautés locales en partie aussi, mais également les cahiers de charges qui constituent finalement un partenariat, un accord qui engage les parties, où toute société minière s'engage sur la durée de vie de sa mine à entreprendre un certain nombre de projets communautaires pour créer justement cet écosystème d'activités économiques diversifiées autour des opérations minières. Tout cela dans le sens de faire profiter aux communautés locales.
Mais au niveau des résultats, c'est une paire de manches.
Au niveau des résultats, il y a déjà des signes palpables. Je peux vous assurer aujourd'hui que tant dans le secteur éducatif que dans le secteur des infrastructures et de dessertes en eau potable et autres, on voit des grandes avancées. Je vais vous donner un exemple simple. Je suis en train de développer pour le compte d'Ivano Mines la mine de zinc qui a la teneur la plus riche au monde. Cette mine n'est pas encore opérationnelle. Elle le sera dans 2 ans parce que nous sommes dans les efforts de développement de cette mine. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, nous distribuons de l'eau potable gratuitement à une cité de 300 000 habitants. Et les cités périphériques qui ne sont pas atteintes, nous avons un programme ambitieux de 50 puits d'eau potable, dont une quinzaine sont déjà faits, qui sont opérés par panneaux solaires. Et du point de vue éducatif, il y a plus d'une centaine de bourses d'études aux étudiants du cycle universitaire et presque autant au cycle secondaire. Et d'ailleurs, 2 de nos finalistes de Kipushi, dans la ville où on crée ce projet, ont fait les plus hauts résultats à leurs examens d'État, ce qu'on appelle baccalauréat ailleurs. Et grâce à la bourse de la première dame, la bourse Excellencia, se retrouve à Paris aujourd'hui en train de faire les études. Des exemples comme ça, je peux en citer nombreux. La mine de Kamoa, par exemple, elle est en train de construire en ce moment-ci une université de standard qui n'a rien à envier à ce que vous voyez à Boston, au Canada ou n'importe où ailleurs au monde. First class tertiary education. Et donc, des exemples comme ça, il y en a tout plein. Il est bien dommage, par contre, et ça je dois le dire, que les miniers parfois ne communiquent pas assez. Et alors, l'espace médiatique est plutôt rempli par tout ce qui est dénoncé de mauvais par la société civile et les lanceurs d'alerte. Et c'est légitime qu'ils le fassent, mais je crois qu'il y a énormément de bonnes choses qui se font dans le secteur minier. Et j'aime toujours inviter les critiques et les sceptiques de venir voir de visu, de voir de même pour croire à ce qui se fait ici.
Et quelles sont les perspectives pour l'année en cours ?
C'est une année où nous sommes très optimistes. C'est vrai, il y a les chocs de la géopolitique internationale, il y a eu la Covid, puis maintenant il y a la guerre en Ukraine, qui a des répercussions sur nous tous, concernant par exemple le coût d'un intrant important qui est le carburant dans nos opérations minières. Mais en dépit de tous ces chocs, Nous sommes optimistes parce que la RDC, et moi qui vous parle, je suis un fondamentaliste des ressources naturelles de la RDC, parce que la dotation minérale que nous avons, elle n'est égalée par aucun autre pays au monde. Et deuxièmement, le capital humain est exceptionnel en RDC. Troisièmement, l'énergie hydroélectrique est disponible. Nous avons un déficit pour le moment, mais qui peut très vite être comblé, parce qu'en réalité, la RDC peut produire suffisamment d'électricité pour toute l'Afrique et même le Proche-Orient. Et bien sûr, il y a les terres arables, plus près de 80 millions de terres arables. Lorsque vous mettez tout ça dans un basket, vous réalisez que c'est un pays qui a énormément de potentiel, énormément de résilience par rapport à ces chocs géopolitiques. Et donc, nous voyons encore une année de production très forte pour le pays, dans les métaux de base tels que le cuivre, le cobalt, l'or également. Et donc, nous restons très optimistes. C'est ça les perspectives pour cette année. Et bien sûr, les paiements infranationaux dont j'ai parlé, puisque c'est le nouveau code minier qui les a édictés, il y a évidemment une courbe d'apprentissage où toutes les parties prenantes doivent bien comprendre en quoi cela consiste. Il faut renforcer les capacités des entités territoriales décentralisées qui seront finalement bénéficiaires de ces paiements-là. Il faut qu'au niveau des communautés locales, des villages, des territoires et autres, ils comprennent que cette manne qui tombe, ce n'est pas pour satisfaire des besoins à court terme, mais c'est pour satisfaire les besoins d'une vision à long terme et financer cette vision à partir d'aujourd'hui. Et donc, il y a quand même du travail à faire, un gros effort à faire. Il faut renforcer ces capacités-là. Il faut aussi que l'administration de notre secteur minier puisse également être plus potente, plus présente sur le terrain. Et bien sûr, il y a le challenge des entrepreneurs locaux, parce que nous voulons aussi créer des champions dans notre pays. Nous ne pouvons pas toujours voir les autres venir devenir champions chez nous. Et pour cela, il faut toute une politique d'accompagnement des entrepreneurs locaux qui sont jeunes, qui sont dynamiques, ambitieux et qui veulent également avoir leur part dans ce boom que connaît la RDC. La moyenne d'âge de la RDC est de 18 ans. Et donc, c'est une population très jeune qui rêve de relever le défi et qui veut faire de ce pays un pays plus beau qu'avant, comme on le chante dans notre hymne national.